I'm not surprised, motherfuckers.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 111 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, on parle de One Fight Night 17, carte exclusivement Muay Thai. Ça fait longtemps, ou c'est peut-être jamais arrivé, me semble-t-il, avec une carte qui est en prime sur Amazon Prime, justement, en Amérique du Nord pour One Championship. Et carte qui, je vais être complètement transparent, honnête avec vous, qui me vendait pas forcément du rêve hein, sur le papier quand on a vu tous les combats, mais carte que j'ai regardée au complet en décalé et qui a été exceptionnelle. Vraiment, au niveau du rendu des combats, ça a été complètement fou. On a eu un seul combat qui a été jusqu'au bout. Sinon, tous les autres combats ont été arrêtés par stoppage ou knockout ou knockdown. Ou bref, la règle du triple knockdown chez One. Ça a été incroyable. Et on s'est vraiment régalé. On va commencer avec le deuxième combat de la soirée. C'était Denis Puric, que je connaissais pas, mais qui est un Canadien, canado-bosniaque. Qui se battait face à Tran Nguyen, le Vietnamien. On est chez les flyweight, mais ça n'empêche absolument rien. Au niveau du KO power, ça a été très très fort dès le début. Premier round, on a eu du back and forth sur des single shots entre les deux combattants. Je trouve que Puric a des low kicks beaucoup plus lourds que son adversaire. Le stream a planté d'ailleurs dans le premier round, et il a planté aussi une autre fois dans la soirée. Puric pousse contre les cordes énormément. Nguyen a enclenché le clinch assez vite dans le premier. Je pense qu'il était peut-être un peu overwhelmed par la puissance de Puric. Nguyen commence à voir les one-shots arriver, par exemple. Alors, c'est sûr que face à cette stratégie, on peut les voir arriver. On peut commencer à esquiver ce que Nguyen a bien su faire avec du bon head movement et un bon timing aussi de ses esquives alors qu'il était contre les cordes. C'était pas mal. Deuxième round, Nguyen passe un high kick en switch kick magnifique, vraiment pleine face. C'est arrivé vraiment pleine face de son adversaire. Mais c'était plus une claque au final, sans conséquence, du pied. Première minute qui était un peu, on va dire, gâchée par du clinch assez neutre entre les deux. Nguyen veut commencer à envoyer des bombes sur les 1-2, puisque c'est Puric qui envoyait vraiment la puissance sur le premier round. Mais c'est Puric qui pousse toujours plus contre les cordes, et c'est un seul shot au final qui tuera Nguyen, un semi-crochet du gauche dans la tempe, qui viendra coucher le Vietnamien. 40e victoire pour Puric. Efficace, simple, puissant, pas mal. Pas mal, vraiment une démonstration de force de la part du canado-bosnien. Au niveau du niveau, justement, on n'a pas forcément eu toute la possibilité de voir l'étendue de son niveau. Tant le combat était assez vraiment attaque en ligne avec grosse bombe. Bon, après, on est avec les petits gants chez One, hein, donc on le sait qu'ils veulent se mettre mal et qu'ils veulent se mettre KO. Mais techniquement, c'était pas le combat le plus abouti de la soirée. Malgré tout, Puric a su gérer le timing sur cette bombe hein, dans le deuxième round, et ça a couché son adversaire net. Terminé, bonsoir, belle victoire de Puric. Et on enchaîne directement avec le troisième combat entre Edgar Tabárez, hein, le fameux Mexicain qui avait été jeté en pâture face à Rod Tang pour un title shot. Et c'est vrai que plus on voit les combats, hein, bon après il s'est fait défoncer par Edias Mahmoudi. Edias Mahmoudi d'ailleurs qui va se battre en kickboxing contre Superlek, hein, ça aussi c'est un super combat. Qui se battait face à Ghazali, un américano-malaisien de 16-17 ans, me semble-t-il, qui est un vrai tueur. Hein, à date, ça marche vraiment bien pour lui chez One Championship, très puissant en Muay Thai. Par contre, ça, c'est, je vais mettre un petit side note sur les commentateurs, parce que genre, à chaque début de combat, ils sont obligés de la ramener sur « Ah, mais ça, c'est les meilleurs, on a dans le ring, on a les meilleurs pieds-points du monde, on est les meilleurs au monde, etc. » Alors, c'est vrai. Hein, en ce moment, au niveau du roster, du pied-point, c'est les meilleurs, mais c'est pas obligé de te forcer à le ramener à chaque fois, quoi. Ça m'énerve, cet aspect corporate de One, à toujours vouloir mettre cette organisation sur la première marche du podium, quoi. C'est détendez-vous, on sait que vous êtes bon, mais c'est pas la peine de le répéter à chaque fucking combat, quoi. 12 fois pendant la carte, c'est pesant. Voilà, j'arrête de bitcher. Alors que le stream était en train de foirer, hein, justement, puisqu'ils nous disent ça encore une fois. Mais revenons au combat. Hein, le pauvre Edgar Tabárez s'est retrouvé face à la superstar, à en devenir Ghazali, ça a été très compliqué. Encore une fois pour Tabarès. Ghazali pousse contre les cordes directement, il envoie des coudes dans la poche pour se faire respecter. Edgar Tabarès se retrouve dans le coin, défend avec des low kicks plutôt de sortir. Bon, grosse erreur, hein, j'ai envie de dire, face à un gars aussi agressif que ça. Hein, des types auraient été plus opportuns, ou alors du jab, et sortir sur le côté, se décaler. Ce qui n'a pas été fait assez vite, du moins. Et il s'est pris un missile au corps direct qui le couche, et ça a été fini en 30 secondes. Alors que je vous rappelle que Edgar Tabarès s'est fait déboîter tout du long face... face à Roteng, hein, même s'il a montré de l'abnégation, c'était pas mal, mais c'était pas le niveau. Il s'est fait défoncer en un round par Edias Mahmoudi, qui, comme je vous l'ai dit, va se battre pour la ceinture en kickboxing face à Superlek. Et là, on le met face à un assassin, et il se fait encore une fois déboîter en 30 secondes. Le pauvre Mexicain est le heavy bag de One Championship. Je ne sais pas pourquoi d'autres, il a été signé chez One. Le mec est signé pour se faire massacrer par tous les tueurs du roster. Alors, c'est sûr que dans la plupart des catégories, dans le top 5, direct chez One, c'est compliqué. Hein. Tu te retrouves face à un Cador, normalement, directement. Et puis là, il s'est retrouvé encore une fois face à un Cador et s'est encore une fois fait défoncer 0-3 pour Edgar Tabarès. C'est dur quoi, je sais pas combien de temps One va le garder, à moins qu'ils ont besoin de fider certains gars avec un punching bag encore une fois, et une machine à se faire déboîter, hein. C'est horrible mais c'est vrai, et puis en plus les défaites sont lourdes à chaque fois quoi. Contre Mahmoudi, il s'est fait massacrer quand Mahmoudi l'a poussé contre les cordes et lui a envoyé des coups de désenfer, puis là il se prend un coup au corps et il se retrouve plié en deux pendant 5 minutes, je veux dire c'est l'enfer. Clairement l'enfer pour Edgar Tabarès chez One. Après, bon, peut-être il a un contrat juteux, mais ça m'étonnerait, j'ai envie de vous dire. Ça ne m'étonnerait pas qu'il se retrouve avec un contrat de merde en plus pour aller se faire déboîter. Bref, c'est dur. C'est dur et puis... mais on a rien appris hein, pour Ghazali. Moi, j'ai rien appris de mon côté parce que j'ai vu des combats et des performances de lui où il a plus montré. Mais là, il a pas eu l'occasion vraiment de montrer, hein. Juste il a avancé, il a frappé le bon coup au bon moment, 30 secondes c'était fini. Donc j'ai hâte de le voir contre quelqu'un d'autre hein, dans cette KT, ça va être sympa de le revoir, et quand même belle victoire, il faut le dire, même si expéditif KO, hein, c'est forcément une belle victoire, mais je vous dis, le gars en face quoi, voilà, ça reste, c'est problématique, il faut pas se mentir, c'est grave problématique. Et on reste chez les flyweight, hein, en Muay Thai. D'ailleurs, je pense que Ghazali va peut-être rentrer dans le classement. Puisque là, on est encore chez les flyweight avec Gonzalez, qui se battait contre Smith, un Anglais que j'ai découvert et qui est fucking bon. Gonzalez, le Brésilien, qui était classé, en tout cas, en rentrant dans le ring pour ce combat, qui était classé numéro 2. Et ça a été Jacob Smith hein, qui a été plus entreprenant dans la première minute. C'est lui qui a poussé contre les cordes. Il a vraiment pas mal varié les niveaux. J'ai trouvé ça vraiment bien. Gonzalez avec beaucoup de garde haute. Hein. C'est sûr que pour se défendre des assauts, c'est pas forcément la mauvaise idée. Mais il faut aussi du déplacement, du footwork et un peu plus de stratégie qu'une bonne garde. Il finira par avancer, mais il se fera directement punir dans le clinch avec un coude court dans la poche et un genou qui arrivera dans le bide et qui droppera Gonzalez. Et Gonzalez ne se relèvera plus. Ça aura été très vite. Hein. Encore un combat en un round, je vous le dis, hein, cette carte a été malade. Si vous ne l'avez pas vue, merci déjà d'écouter le podcast, mais je vous encourage à aller la voir parce que c'était très beau. Encore une fois, les commentateurs, évidemment, ben too much, the best in the world, etc. Mais là, clairement, on se régale. Hein. Clairement, on se régale et bravo. Bravo à Jacob Smith, et lui aussi, j'ai hâte de le voir, d'ailleurs, ça en fait deux, hein, avec Ghazali, et puis lui, ça fait deux beaux contenders dans la KT. Décidément, ce roster, même si les commentateurs en parlent trop, est clairement le plus fou. On enchaîne avec un combat chez les lightweight, là on est dans le plus gros en Muay Thai, toujours, comme je vous dis, la carte est 100% Muay Thai, entre le russe Menchikov et Shafi, le marocain espagnol. Alors celui-là, intéressant et complètement malade encore une fois, comme tous les combats. Premier round, c'est Shafi qui part plus fort avec des one-two vraiment agressifs. Les échanges sont violents. Chaque fighter cherche vraiment le chaos sur chaque coup. Les combis sont courtes, hein. On est vraiment sur des combis qui sont à pas plus de 2 coups. Shafi est pas mal à varier les coups, je trouve, pour essayer de passer la garde de Menchikov qui est vraiment très discipliné. Une bonne coquille en haut. Il passe un type derrière en plus pour essayer de garder la distance. Je trouve que cette stratégie est pas mal venant de la part de Shafi. Par contre, attention aux attaques simples, hein. En ligne, le russe est à l'affût pour un counter dévastateur. Et c'est justement Menchikov qui passera le premier knockdown avec un crochet du gauche. Pardon, Shafi est prévenu. Par contre, il repart directement à la guerre, hein. C'est le mot d'ordre de la soirée, la guerre. Il est poussé contre les cordes. Menchikov est en difficulté jusqu'à ce qu'il place, comme je vous l'avais dit, hein, ça venait. Il avait son menton pas assez protégé, notamment Shafi. Ça pouvait être dangereux. Et quand il se retrouvait contre les cordes, Menchikov, il est passé sur une belle combinaison avec notamment un beau counter avec un droit direct et deux crochets du gauche. Pile sur le bouton, pile sur le menton. Voilà. Shafi n'a pas appris de son premier knockdown. Il n'a pas bien caché son menton. Menton trop en avant. Bras écartés. Voilà. C'est du plaisir pour le russe Menchikov qui a pu placer ce bon counter en 1-2 vraiment facile. Pile sur le menton. Terminé. Bonsoir pour Shafi. Magnifique KO du russe. Beau. Beau, beau, beau. C'est cool parce que. Les lightweight, on les voit pas souvent là. C'est Regan Ersol qui est double champion, semble-t-il, le kickboxing et Muay Thai chez les lightweight. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. J'aimerais bien le revoir. Je vous avoue que je connais pas tout le roster en lightweight hein, chez One, mais ce serait pas mal de le remettre bientôt. On en parlera un petit peu en fin de ce podcast. Je vais vous parler de l'actualité de One et un petit peu aussi de l'actualité du Guillotine Podcast par rapport au pied-point. Belle victoire du russe Menchikov. Bravo à lui au lightweight. Je veux revoir Regan Ersol bientôt. On passe au prochain combat. Alors celui-là aussi, c'était 2-1, une découverte, une grosse surprise, un gros plaisir, une grosse guerre, un gros kiff. Mohamed Younes Rabah face à Saempech Fairtex. Alors Saempech qui était classé, me semble-t-il, numéro 3, je pense, chez les Bantams en rentrant dans le ring. Pardon. On était sur un combat catchweight hein, à 150 livres. Rabah, c'était son premier combat, Mohamed. Chez One Championship, après il a eu des combats en pro, il était invaincu. Bon, après 13, et je crois une petite quinzaine de combats que des victoires. Il avait combattu quand même au Rajamen, me semble-t-il aussi. Mais pas non plus la carrière la plus longue, quoi. C'est ça que je veux dire. Assez débutant, on va dire, dans le monde du Muay Thai, hein, par rapport au nombre de combats qu'il a eu. Et incroyable surprise, quoi. Premier round, le Thaï restait bien solide sur ses appuis. Il devait vraiment gérer le plus gros gabarit de l'Algérien, pardon, qui fait 6 pieds 2. Hein. Saempech est beaucoup plus court. Garde bien disciplinée du Thaï, zéro panique sur les assauts. Et premier counter du Thaï, knockdown Rabah. Bim, clinique. Hein, vraiment. La patience, la discipline, le calme et puis l'incroyable efficacité. Un counter, un punch, un knockdown de Saempech Fairtex. Les Thaïs sont dans la place. Rabah repart à l'assaut et knockdown direct Saempech sur un one punch. What the fuck? Directement derrière, dans les 10 secondes derrière. Deuxième knockdown du combat. Rabah veut être plus entreprenant, mais attention au counter du Thaï. Saempech se fait pousser contre les cordes avec un genou. Et un direct du droit passera à travers ses gants, le mettra au sol. Et me semble-t-il, je l'ai vu peu de temps après avoir revu le combat, c'est-à-dire il y a quelques minutes. Apparemment, il y a un genou au sol qui sera arrivé pleine poire du Thaï. Alors regrettable parce que moi je l'avais pas vu et puis du coup je me disais que la performance de Rabah était parfaite, hein, clairement, enfin quasi parfaite, il s'est fait knockdown une fois, mais bon, le fait de se faire knockdown, de le knockdown derrière, elle de le re-knockdown encore une fois, et puis après il était vraiment en mode titubé, hein, quand il s'est relevé le Thaï sur le deuxième knockdown, il a commencé à vaciller, l'arbitre a arrêté direct et il a failli retomber derrière une fois que l'arbitre avait arrêté, donc c'était vraiment la bonne chose à faire, vraiment bonne décision de l'arbitre. Mais il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu un peu ce genou qui est venu gêner, quoi. J'ai vu une déclaration de Chatri qui disait que c'était un peu de la bullshit, que ce soit pas une faute de la part de Rabah. Et ben, là, c'est un peu juste hein, de la part de Chatri, il faut le dire. Voilà, quoi. Je suis le premier à bâcher Chatri sur les conneries qu'il dit. mais là, ça n'en était pas une. C'est vrai que ça pourrait passer pour une faute et ça vient mettre une petite tache sur la victoire, pas sur la performance, sur la victoire parce que c'est vrai que sur le coup de la enfin, pas de la folie, mais de l'adrénaline, etc., quand t'es en train de passer, genre, devant le local, hein, vraiment une star sur place, Sam Patch, de se retrouver dans cette situation, je peux comprendre que le genou parte pendant que l'autre est en train de tomber. C'était pas forcément intentionnel non plus, mais sur la victoire, malgré tout, ça laisse une petite tache. Mais malgré tout, putain, incroyable quoi. Premier combat, victoire en 2 minutes 29 au premier round face à un Thaï classé 3. Waouh, c'est fou quoi. Je crois qu'il se bat en bantam, Sam Patch et Mohamed. Je sais pas combien il va se battre quoi. Peut-être chez les Feather. Parce que 6-2 là, tu peux pas aller en bantamweight. Hein. Enfin, il y en a qui le font, mais bon, c'est chaud quoi. En tout cas, belle découverte hein, que l'Algérien. Ça fait deux Algériens qui sont très bons là en ce moment chez ONE avec Elias Mahmoudi qui s'est. Lui, retrouvé avec un title shot hein, face à Superleg, troisième fois que je le dis. On va reparler encore un peu à la fin de ce podcast. Mais voilà, vive l'Algérie pour le Muay Thai. En ce moment, ça marche bien. C'est cool de voir des fighters arriver et vraiment foutre le bordel dans les KT. C'est excellent. On veut encore plus de compétition. Bravo à Mohamed pour cette victoire. On passe au co-main event de la soirée qui, pour moi, est bah, bizarrement, c'est le seul combat qui n'a pas été jusqu'au bout, mais qui, pour moi, était Fight of the Night. D'ailleurs, aucun des deux n'a eu de bonus et je suis un peu déçu là-dessus parce que, honnêtement, vu comment Chatri part en mode Oprah pour donner des bonus à tout le monde, alors que certains fighters ont des contrats catastrophiques avec des payes à chier. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Hein. C'est normal que je prenne mon petit shot à Chatri sur chaque épisode. Mais pourquoi les deux n'ont pas eu de fucking Fight of the Night bonus ou whatever the fuck you want to call it? Je comprends pas. Mais revenons au combat. Hein. On n'est pas là pour se plaindre, on est là pour se régaler sur cette putain de carte de fou de chef. Luc Lessay, hein, qui est un des derniers, la dernière recrue, ou une des dernières recrues, tout du moins, chez ONE Championship, un gars qui a énormément d'attractions sur les réseaux. Donc, c'est vrai que ça sentait un peu la signature à buzz pour ONE. Ça sentait un peu ça, et puis en plus, ça sent, je dis ça sent, et son surnom c'est The Chef. Ça sentait un peu une signature. Bon, on va se ramener encore un peu plus de croissance sur les réseaux. Hein, vous savez à quel point ONE aime ça. Par contre, on le mettait directement face à Joe Natawood, Smoking Joe, qui a vraiment livré un très beau combat, une belle guerre, une belle bataille face à Tawan Chai, qui lui ben, va se battre pour la ceinture bientôt. On va en reparler un petit peu en fin de podcast. Beau combat, combat malade, beau combat. Qu'est-ce que je parle? Genre, combat de la soirée pour moi. Voilà. Premier round, Lessay travaille bien sa gestion de la distance. Il ne veut pas rester dans la poche face à Joe Natawood. Ça, il le fera très bien pendant le premier round. Et au fur et à mesure qu'il se fatiguera un peu, ça va un peu plus se coller dans la poche. Mais ça, c'est pour notre plus grand plaisir. Hein. Ces types sont très bons aussi pour garder la distance. Par contre, Smoking Joe, on le connaît, hein, lui, il va à la bagarre, il va aller dans le brawl un peu des fois, il veut aller dans la poche, il veut aller dans le clinch, et Smoking Joe pousse contre les cordes. Hein. Par contre, l'essai, The Chef ferme bien sa garde. Smoking Joe obligé de varier les niveaux, donc là, c'est sûr que je pense que tous les coups au corps, c'est du crédit, c'est du bono pris pour du bonus pardon pris pour Smoking Joe tout au long du combat, parce que ça, il variera les niveaux, il y a beaucoup de coups au corps. Ça c'était très bien fait de la part de Smoking Joe, beaucoup de volume. Beau travail en low kick de Luc Lessay, par contre, lui, il sait bien les timer, sait bien les mettre, et la bonne puissance, etc. Ça aussi, c'est du bonus qui va accumuler tout au long du combat. Mais attention à ne pas se laisser prendre par les émotions pour Luc Lessay, ne pas trop rester dans la poche, ça peut être très dangereux face à Smoking Joe, qui en plus est quasiment impossible à se faire KO, quoi. Donc, attention, est-ce que ça vaut le coup? Round 2, bagarre de zinzin dans le clinch contre les cordes. L'arbitre laisse rouler, ne coupe pas le clinch. Et ça, quel régal. 1 minute de grosse bagarre dans les cordes. Chaque coude est envoyé à 200%, et là on dit que ça va se finir, mais non, ça ne se finit pas. Le combat est malade, les deux continuent. On sent une toute petite baisse de rythme, évidemment, après 7 minutes de cinglé. Mini coup de fatigue, mais c'est Smoking Joe qui continue d'agresser en poussant, hein. Et là, Luc Lessé me paraît un peu cuit, et je dis que c'est fini un peu pour lui, mais non, j'ai eu complètement tort, vraiment gros préjugé, mauvais de ma part, mauvaise lecture du combattant. Luc Lessé restera debout tout au long du combat, hein. Smoking Joe, par contre, lui aussi avance non-stop. Lessé se retrouve trop bloqué dans le coin, et là, c'est ça aussi que je me dis que ça pue pour lui. Il est un peu fatigué, il traîne trop dans le coin, mais on reste dans cette zone. Et Luc Lessé reste debout, hein. Et par contre, il va toujours aller chercher des counters. Il en passera un beaucoup de pleine face aussi dans le deuxième. Par contre, Smoking Joe ne bronche absolument pas. On dirait qu'il s'est pris une claque. Et il continue l'assaut. Lessé est infinissable dans ce round. Il va même aller tipper Smoking Joe pour l'envoyer au sol en fin de deuxième round. Round 2. Taré, hein. L'essai, il l'a perdu, clairement. Mais le fait d'être resté debout et cette bagarre de ouf dans la première minute, incroyable. Alors là, je me dis, troisième round, ça va être compliqué. Mais l'essai a des mouvements un peu limités en plus, hein, au niveau du footstep. Il avance toujours avec sa garde coquille qu'il essaie de garder bien en haut. Ça laisse trop de place à Joe pour gérer, hein. Il se retrouve un petit peu en mode punching bag, des fois, au milieu du ring. Et Joe, pour mieux timer, il peut bien gérer ses attaques. Les deux sont debout au centre, hein, par contre, à se mettre dessus dans la poche. Double counter de Luc Lessé de chef qui arrive pleine poire de Joe. Joe acquiesce, respecte son adversaire. Lessé se fait pousser dans le coin, mais repart au milieu. Quel warrior. Cette fois-ci, il ne veut pas. Je pense que son corner a corrigé cette erreur. Quel warrior. Dernier push de l'Américain qui secoue Joe. Et là, c'est Joe qui se retrouve en difficulté contre les cordes. Avec vraiment du footstep limité, hein. On voit limite que ça titube pour le thai. Lessé, vraiment, il lâche les chiens contre les cordes dans les 30 dernières secondes. Fight incroyable. Ce mec est un vrai. Et je trouve que le gars a déjà gagné. Je sais qu'il va perdre, hein, que l'arbitre ne va pas lui donner le combat, il va donner la victoire à Smoking Joe. Mais clairement, Lessé avec cette abnégation, le fait que ce soit un warrior, le fait qu'il ait pas pu être fini, et qu'il arrive à counter et à revenir vraiment au centre de l'octagone et à faire une dernière poussée sur Smoking Joe, limite à lui faire peur, vraiment, c'était très beau. Très, très beau. Et il a gagné mon respect, il a gagné le respect des fans, je pense. Belle signature de One, quoi. Putain, c'est incroyable. Même quand ils vont chercher un fucking limite, je dis influenceur, c'est très dur, mais allez, je prends le mot pareil, tant pis. Et qu'ils vont aller chercher un influenceur que genre, j'ai aucune idée de c'était qui ce mec. Bah, au final, genre, le gars, il a géré contre fucking Natawood, quoi. C'est fou. C'est infinissable, ce roster. Et puis bon. Le gars, je pense qu'il a gagné encore plus en popularité sur les réseaux après ce combat, avec les audiences de milliards et de milliards de personnes de One, n'est-ce pas ? Voilà, c'est clairement une relation gagnant-gagnant entre les deux, dépendamment de la gueule du contrat de Luc Lessé, évidemment. C'est intéressant de l'avoir, et puis ben, Smoking Joe est toujours dans la place, quoi. Il est toujours là, il a perdu contre Tawan Chai, mais il avait livré une belle bataille. Puis là, encore une bataille de cinglé face au chef. On se régale, super combat encore une fois, pourquoi pas de bonus pour ces deux gars-là. Et on finit avec le main event, et celui-là, j'ai envie de vous dire, c'est celui qui me saussait le moins, hein, parce que bah, c'est une catégorie qui est vide, clairement, hein, faut être honnête, au niveau du pied-point, et au niveau du MMA aussi, au niveau du grappling, au niveau de tout là, chez les heavyweight, chez One, c'est, bon après... Après, il y a Omar Khané qui est la seule star, un peu, j'ai envie de dire, chez les gros gabarits, chez One Championship. Vu que, Anatoly, il est cool, hein, mais bon, il n'y a aucune opposition en face. Rainier de Reader, il est très bon, mais en grappling, et puis en MMA, on a vu que ça peut être limité quand il arrive face à un adversaire un peu plus coriace. Et en pied-point, bah, je trouve que c'est pas fou non plus, quoi. Craig Lia est cool, t'sais, il est cool, il sait se battre en kickboxing, c'est impressionnant. Après, en Muay Thai, il n'y en a pas, quoi. Il n'y a pas de roster derrière. Mais malgré tout, on a eu ce combat. Premier round, et puis Alazov dans le coin de Roman Kriklia, l'Ukrainien, qui se battait face à Alex Roberts, un Australien. Et c'est Roberts qui fonce en premier, mais c'est Roberts qui se fait dropper en premier. Premier 1-2 de Roman Kriklia et premier knockdown pour Roman Kriklia en reculant, il s'est fait dropper. La garde de Roberts c'est trop basse là, je trouve que les mains sont pas assez disciplinées. Même s'il essaie d'installer sa distance avec des middle kicks, sa garde restera son pire ennemi. Problème numéro 1, il s'est fait clipper encore une fois sur un counter de Kriklia. Kriklia meilleur sur les 1-2 en ligne. Même si l'Ukrainien se fait toucher en fin de round, là on pourrait se dire il y aura peut-être un combat, mais c'était plus... peut-être un lucky punch, j'ai envie de dire, mais voilà. Deuxième round, Roberts rentre dans le ring, sur le ring en boitant, ça promet. Premier 1-2 de Kriklia connect, comme je vous dis, genre la garde ça va pas, les déplacements ça va pas. Le deuxième est pas loin de finir, mais au final, il y aura 1, 2, 3 qui, le troisième coup, hein, qui sera un crochet pile menton, enverra Roberts dans les abysses. Et nouvelle ceinture pour Roman Kriklia qui est double champ et qui a eu son bonus mérité, mais encore une fois, je vais faire le chiant. Pas de bonus pour Natawood, l'essai, c'est un scandale. Soirée de débile, soirée de fou, je me suis régalé à regarder les combats, encore une fois, allez les voir si vous ne les avez pas vus, c'était fucking nice, putain, quel One Fight Night de One Championship, ils se sont régalés, je pense que cette carte, j'espère que cette carte fera parler d'elle, parce que putain, ça a livré, qu'est-ce qu'on sait, on s'est régalé, c'était magnifique. On est bien avec One cette année, on est bien, il y a du lourd qui s'en vient, d'ailleurs, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'en vient pour One. Ce qui s'en vient pour One avec Guillotine aussi, hein. Donc si vous ne l'avez pas vu, j'ai interviewé champion strawweight de kickboxing John DiBella, la vidéo est sur la chaîne YouTube, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à YouTube, Guillotine Podcast, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, lâchez un pouce, un commentaire, etc. Merci, ça m'aide beaucoup. Voilà, John a quelques trucs, quelque chose à dire par rapport à ce qui s'en vient chez One, notamment à Prajan Chai versus Joseph Lassiri qui s'en vient, qui sera très intéressant chez les strawweight en Muay Thai. Et ce combat, figurez-vous, qui sera sur la carte One Fight Night 46 du vendredi 22 décembre. En tout cas, ça, c'est horaire Amérique du Nord. Ben, je pense qu'en France, ce sera un peu la même chose, peut-être dans la nuit, le 23, du 22 au 23, donc cette carte, les amis. Dawan Chai versus Superbon. C'est la troisième fois que ce combat est fucking décalé, mais enfin, on l'a cette année pour Noël, le meilleur cadeau qui puisse nous arriver pour nous les fans de pied-point. Énorme combat, voilà, je vais pas en parler, mais... on va regarder le combat et dans la foulée du combat, je vais faire un podcast et sur ce podcast, il y aura un invité qui n'est jamais venu au Guillotine Podcast et ça fait longtemps que je veux l'inviter. Je voulais garder le bon moment pour l'avoir et là, je suis très content de l'avoir. Je l'annoncerai sous peu. Deuxième combat, Joseph Lassiri contre Prajan Chai. Ça, je vous l'ai dit, j'en ai discuté avec John DiBella dans la dernière interview sur YouTube. Allez la voir. L'Italien marocain face au Thaïlandais. Strawweight Muay Thai World Championship. Super excellent. J'ai fucking hâte de celui-là. Fed Jija face à Anissa Mexen. Anissa Mexen qui est revenue après tant de galères pour des histoires de putain de contrats de merde. Encore une fois, avec One. Ces contrats, je vous le dis, les amis, ça a l'air d'être une chienlit pas possible chez One. La Française algérienne qui avait signé ou pas chez Ares, qui devait se battre chez Ares et qui au final se battra pas chez Ares, peut-être jamais, hein, who knows. En tout cas, elle est de retour chez One pour un titre intérim en Atomweight, en kickboxing direct. On la remet dans la fosse au lion pour un titre. Et ça fait grave plaisir parce que putain, fin de carrière gâchée je trouve par One Championship pour Anissa Mexen, vraiment elle méritait mieux. Et là, enfin, on la remet dans le panier pour aller chercher une ceinture en plus. Alors ça c'est un très bon move de la part de One. Ensuite, Nango face à Nico Carrillo, l'écossais. Alors Nico Carrillo qui est un beau prospect chez les Bantamweight et Nango qui est un fou furieux, une légende. Et puis on a aussi en catchweight Riverdaz, l'Australien, face à Sexan, hein, Sexan qui est monstrueux en ce moment. On a aussi Nabil Anan, l'Algérien thaïlandais, face à Muang Thai Pique Sencha, et celui-là va être bon aussi. Il y a du lourd, on va parler de tous ces combats, on va les regarder, et on enchaînera avec un podcast, comme je vous le dis, avec un invité. Surprise, j'ai fucking hâte. Ah oui, il y a aussi One Fight Night 18, le 12 janvier. Super leg face à Elias Mahmoudi, l'Algérien. Ça va être fou. Flyweight Kickboxing World Championship. J'aurais préféré en Muay Thai, mais on l'a en kickboxing. Ça va être une guerre pareille. Et après, on a ce zinzin de John Lineker qui veut aller se confronter face à Liam Harrison chez les Bantamweight en Muay Thai. Merci. Oui, je dis oui, je valide, je veux, je prends. Merci, Juan. On continuera d'enchaîner avec le combat que tout le monde attendait depuis la signature de la superstar du K1, Takeru, le japonais, face à Rod Tang. Ça se passera au Japon, au Tokyo Dome, le 28 janvier. Bordel, que c'est bon. De toute façon, ce combat faisait du sens, hein, entre, pour les catégories de poids, pour le statut de superstar des deux. Clairement, c'est ce qu'il fallait. Et puis, même si Roteng a perdu contre Superleg, c'était quand même un très beau combat. On a eu une bataille et on était content. On aurait voulu 5 rounds, on en a eu 3, mais on est content pareil. Et on a un combat de kickboxing de fou, fucking hâte. Évidemment, qui ne va pas regarder ce combat, hein, qui ne va pas regarder ce combat? Bah, évidemment, je vais le voir. On va faire du contenu là-dessus, c'est sûr. On va faire de la promo et tout ça. Ça va être fucking bon. Quel mois de janvier qui nous attend, les amis? Ah oui, d'ailleurs, One 1-6-5, hein, cette carte au Japon. On revient dans des numérotés avec One. One a fait le retour des numérotés. Ah oui, puis oublié de vous dire le retour de Serge Northcutt, Super Sage, sur cette carte face à la légende Shinya Aoki, la légende japonaise. Et puis en parlant des numérotés, One 1-6-6 au Qatar a été officiellement annoncé pour le 1er mars. 5 title fights. Qu'est-ce que ce sera? C'est pas mal sûr, il y aura des combats de grappling pour la ceinture, il y aura sûrement un ou deux combats MMA et puis peut-être un ou deux combats pied-poing, mais comme je vous le dis là, c'est tellement volumineux, hein, ce qui s'en vient au niveau des combats pour la ceinture en pied-poing que ils sont obligés, je pense, de mettre des combats de grappling et de MMA pour les titres. Sur cette carte de Doha du 1er mars, 1-1-6-6. Voilà! C'est pas mal ça. Désolé pour l'absence des podcasts audio. J'ai travaillé énormément. Bah déjà au travail, dans mon travail de la vraie vie. Décembre, c'est toujours occupé. Mais surtout, j'ai fait énormément de contenu vidéo entre novembre et décembre. Entre ben, l'interview de Alex Tekena, la combattante de chez Ares Championship de MMA. L'interview de John Dibella, le champion strawweight kickboxing de chez One Championship, Montréalais, New Yorkais, Italien, Canadien. Et puis aussi, j'ai couvert un événement de kickboxing local, hein, si on peut appeler ça local, parce que c'est un événement international, Canada versus Tunisie, le plus grand événement de K1 amateur au Québec, au Canada. Ever, j'y étais, beaucoup de monde y était. D'ailleurs, ça fait plaisir de voir que la scène de kickboxing au Québec est vivante, est bel et bien vivante. Franchement, l'ambiance était bonne, y avait du monde, les combats étaient bien et j'en ai fait une vidéo qui marche bien en ce moment. Merci à ceux qui l'ont regardé, ça fait plaisir. C'est la deuxième vidéo de la chaîne qui a mieux le marché après l'interview de Charles R. Jourdain. Donc ça fait plaisir, franchement, que les gens la regardent. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue encore sur YouTube, j'ai travaillé beaucoup à faire du YouTube, à faire du contenu et j'espère que ce que je livre est un minimum de qualité et je compte continuer à en faire plus. Il y a un événement qui s'en vient fin décembre mais qui est grappling, je ne vais pas en parler sur ce podcast là parce que c'est un podcast pied-point aujourd'hui, mais voilà, hein, ça me tient à cœur, ça me plaît de faire ça et j'espère que vous y trouvez un minimum de plaisir à aller regarder ces vidéos. Voilà. Merci beaucoup à tous. On se reparle très bientôt. Voilà, il y a des podcasts MMA, UFC qui vont s'en venir. Mais si vous écoutez ça pour le pied-point, il y a évidemment le podcast du 22 décembre, One Fight Night 46, qui s'en viendra le week-end du 22 décembre, du moins. Merci à tous pour cette écoute. abonnez-vous sur votre plateforme audio préférée. Laissez-moi un petit review si jamais ça vous plaît. Hein, une petite étoile, un petit quelque chose, un petit commentaire sur Apple. Hein, ça ne mange pas de pain. Et puis, voilà, moi, je suis content d'avoir un retour de temps en temps. C'est toujours plaisant. Merci à vous. Abonnez-vous sur les réseaux @guillotine514 pour Twitter, @guillotine_podcast sur Instagram, @guillotine.podcast sur TikTok. Guillotine Podcast sur YouTube. Merci les amis. Ciao. At the end of the day, it is.